Alors on va continuer ce thème de l'homilectique.
Tu tutumunuka ni ila jetu ja mushindu wa kulongolola buyishi.
C'est ce thème de Dieu, c'est l'art de prêcher la parole de Dieu.
Jibamba ne ndwiji lomo kulongesha dimpe ji janzambi.
Et on a vu hier quelques principes de base qui s'adressent aux prédicateurs. On a vu l'importance de la prédication. L'importance de la prédication parce que c'est un enseignement. C'est comme une nourriture pour le corps. L'enseignement, c'est une nourriture pour notre vie spirituelle. Est-ce que vous vous souvenez d'un verset clé?
C'est
Esdras. Il avait été appelé à enseigner. Alors il est dit qu'Esdras avait d'abord appliqué son cœur. Donc il était motivé. Il avait appliqué son cœur à étudier. Et à mettre en pratique la parole de l'Éternel. Et quatrièmement, il avait été appelé à enseigner. Donc, il faut s'en souvenir, presque l'apprendre par cœur.
Il
faut être préparé. Étudier pour soi-même, mettre en pratique et ensuite enseigner. On a vu qu'il y avait plusieurs types de prédications. Soit les prédications thématiques. Ou on prend un sujet de la Bible ou un personnage ou un
livre.
Et c'est aussi la prédication textuelle. C'est là où on va prendre un chapitre. Et
on
va étudier systématiquement un verset après l'autre. Et c'est le texte qui doit nous donner le contenu de la prédication. On avait vu, premier point, dans la transmission d'un message. C'est le choix du texte. Et puis dans ce texte, il faut un peu le structurer. Et discerner le thème central du passage. Alors hier, je vous avais demandé de lire quelques versets dans Matthieu chapitre
6.
Les versets 1 à 18. Et trouver un mot qui résume un peu le thème principal de ces versets. Est-ce que quelqu'un a fait l'exercice? Oui. Alors, quel est un mot clé que vous avez trouvé? La justice. Le monde.
Bouloba.
Le
mulambo anyi chinthu chakufila anyi chinthu chakulambula bakutwangile mane tuju mulombe ni mwaku twamile mwaku wa chukumu
la priere
gisambila
on verra
oui mukobunga nyi en fait mwaku wa chukumu mumbese.
C'était la première partie de la question.
Ah, tu veux tout ce que tu as compris?
La deuxième partie, est-ce que vous pouvez diviser ce texte en trois éléments?
Le concours libre de vouloir aller. Mais pour nous, tout le monde qui consomme le but pour bien aller du fait. Pour Dieu, nous consommons le nom.
Est-ce que quelqu'un d'autre a fait l'exercice?
Pour Dieu, nous consommons le bois. Vous savez, mon but pour bien aller du fait.
Grand thème, formalisme.
Ah, wa mwane tuju wambane wa moku munene wa chuku mu bujumu ikale mwene ni wo kumeso wa mpendelele.
Nenye sutem.
Wa kumunene chitopa cha kumbe tiye muko solole.
Aparence.
Wa kumunene mwene no.
Nenye sutem.
Chitopa chibi chiye mu mune.
Priye.
Wa kwame ni mpendelele do chisambila.
Wa nenye sutem.
Chitopa chisa cha kumbe ni yeye.
Gerizo.
Ji don londa ko. Aki mujiye mwezi mujumu.
D'accord. Est-ce que vous avez un autre nom pour le formalisme religieux?
Oui. L'apparence.
Alors, je ne sais pas comment ça se dit en Chiluba.
Mais
c'est vrai que ça, c'est un peu le thème de ces trois passages. Parce que chaque fois, il est parlé justement de formalisme religieux.
Et
Jésus parle de gens qui sont hypocrites. Hypocrites dans cette première section. On a parlé de la prière. Jésus dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Et concernant la troisième partie, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Donc, on voit ce mot qui revient et qui parle vraiment de formalisme
religieux.
C'est prendre une certaine apparence qui fait croire que je suis un très bon religieux, mais qui cache quelque chose de mauvais dans le cœur. Alors là, c'est un peu le mot-clé de tout ce passage. Et vous l'avez trouvé. Maintenant, on a vu qu'il y avait trois éléments. Le premier, est-ce que vous avez trouvé, il ne faut pas être hypocrite, mais qu'est-ce que faisaient les hypocrites dans les premiers versets? Quelle était la manifestation d'hypocrisie?
C'est
Jésus qui voyait les pharisiens.
Ah, parce que Jésus voit que Dieu est une pharisie.
Quand il fait un don, il le fait exprès que tout le monde le voit.
Par contre, parce que c'est un chabu, bah vous voyez, bah tu fais les gens n'ont pas les bons bons sur le monde.
Donc c'est l'hypocrisie.
Ah, tu le bon bon.
Quand on fait un don.
Le bon bon là, parce que mon tour suit que c'est la bientôt.
Donc ce premier élément.
Tu te fais chabu par là, tu dis mais.
C'est le mot-clé, c'est comment est-ce que je fais mes dons. Est-ce que je le fais pour attirer l'attention sur moi?
ou bien est-ce que je le fais pour l'amour, par amour pour la personne que j'aime?
Un
deuxième élément, vous avez dit la prière.
Et c'est
exactement ça. Parce que certains aimaient prier en public.
Des
heures durant pour faire croire qu'ils étaient des bons juifs. Et c'est pour ça aussi que Jésus donne un modèle de prière. Jésus leur dit, faites pas comme ces hypocrites. Mais quand vous priez, voilà un modèle.
Et
c'est cette prière qu'on dit sacerdotale. Le Notre Père qu'on récite souvent
dans l'Église.
Alors c'est une prière très utile pour nous.
Mais
on
ne
va pas l'étudier maintenant. Donc premier élément, comment est-ce que je fais mes dons? Deuxième élément, comment est-ce que je prie? Et le troisième élément,
vous
pouvez lire Matthieu 6. Verset
16.
Alors, donc, quel est l'élément, quelle est la situation dans laquelle ces gens étaient hypocrites dans ce troisième
élément?
On a dit non.
Oui. Lorsque
c'est le jeûne. On a parlé ce matin du jeûne dans Ésaïe.
Ésaïe
dit, moi j'ai plaisir dans le jeûne quand vous évitez des dépenses inutiles. Quand vous vous privez de quelque chose, pour pouvoir donner à ceux qui ont besoin. Mais là, qu'est-ce que c'est les pharisiens? Ils montraient bien qu'ils prenaient un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Pour faire croire de nouveau qu'ils sont des bons juifs.
Et
pour attirer l'attention sur eux. Alors c'est un exemple où on étudie un texte. On cherche à structurer les différents éléments, les différents thèmes, mais on voit que dans tous ces thèmes, il y a quand même un fil rouge.
L'hypocrisie.
Alors on va critiquer les pharisiens. Mais je peux me poser la question, après on peut toujours trouver une application pour nous. Est-ce qu'il y a des aspects de ma vie où j'exerce, où Je suis aussi un peu hypocrite.
Kujamu malu amumoyu wanyi anje mwakala angeza kajaji mwakala angeza mimi mwika ni mwena lubombo anje.
Et c'est vrai que souvent dans nos conversations,
kwa mwafa mkuyutila kwetu,
on dit des choses, on va dire oui je vais prier pour toi.
Kwa mwafa nuyikile nmwanelu. Je
dis que je ne vois plus la personne, j'ai
oublié.
C'est une petite situation qu'on a tous les jours. Donc ça c'était un peu choisir son texte et le structurer. On avait vu que c'est très important de donner le sens du texte. Pour être sûr que tout le monde le comprend. Alors, avant de l'enseigner à d'autres, il faut que moi-même, je m'imprègne. Peut-être le lire plusieurs fois à différentes périodes. Mais dans un esprit d'écouter Dieu. J'ai remarqué pour moi-même. Quand on me demande de préparer une petite méditation, je lis le texte, et puis je me dis, mais qu'est-ce que je peux dire aux autres? Mais d'abord, ça commence par moi. Qu'est-ce que moi dois entendre? Dieu veut d'abord travailler dans mon cœur, dans mes pensées. Avant de découvrir ce qui est peut-être le plus important, et le partager à d'autres. Je ne sais pas si vous avez un peu le même problème des fois, mais on pense, ah oui, il faudrait que je trouve un texte pour ça et pour ça. Et quand on prépare, on pense qu'aux autres, mais je dois être le premier auditeur de ma présentation. Alors une fois qu'on a trouvé son texte, il faut aussi le comprendre dans le contexte.
À
quelle époque ça s'est passé? Qui est l'auteur? Qui sont les destinateurs? Et puis se poser la question, mais qu'est-ce que ça représente pour moi aujourd'hui, ce texte? Et des fois, par exemple, dans les évangiles ou dans d'autres livres de la Bible, c'est très important de voir le passage qui précède. Vous connaissez la parole de l'homme riche et de Lazare.
C'est
un exemple pratique que je prends. L'homme très riche vivait très en aisance.
Il
pensait qu'à lui.
Il voulait
s'enrichir toujours plus.
Et
tout près de là, il y avait un homme qui s'appelle Lazare.
Qui mourait
de faim presque. L'homme riche voulait rien lui donner. Il voulait jouir de la vie pour lui. Et voilà, c'est une parabole. Les deux hommes meurent. Et l'homme riche se trouve dans le séjour des morts.
Et
Lazare, lui, se retrouve dans le sein d'Abraham, ça veut dire au ciel,
disons.
Et c'est une parabole, hein, il ne faut pas faire une doctrine. Et puis là, on voit que l'homme riche va appeler Lazare.
Et
lui demande de l'aide. Alors il y a un dialogue qu'on va parcourir. Mais pourquoi est-ce que Jésus tout à coup a parlé, a introduit cette parabole? Est-ce que tout à coup il a l'idée, ah ben je vais parler d'un homme riche? Alors c'est dans Luc
16.
La parabole de Lazare, c'est à partir du verset 19 jusqu'à la fin du
chapitre.
Mais si je regarde le paragraphe précédent, Jésus savait très bien pourquoi il a parlé de cette parabole. Quelqu'un nous lit Luc 16, verset 14. Alors on voit que les pharisiens qui aimaient l'argent, ils étaient attirés par l'argent et ils essayaient d'en récolter le plus possible. Jésus veut leur apprendre quelque chose. Les hommes se moquent. Mais Jésus ne va pas leur répondre en se moquant d'eux. Il aimerait qu'il y ait un changement de cœur chez les pharisiens. Et c'est pour ça qu'il raconte cette histoire de l'homme
riche.
C'était une histoire qui devait toucher leur cœur, leurs sentiments. Jésus ne voulait pas les rejeter d'abord. Mais il voulait les encourager à changer d'attitude. Alors c'est juste un exemple où on analyse le contexte. Pour mieux comprendre pourquoi cette parabole est expliquée là. Et puis si on prépare un exposé, une prédication, il y a le danger aussi que tout à coup en lisant le texte, on a beaucoup d'idées. C'est difficile, on pense à ci, puis après ça fait penser à ça, puis à ça. C'est important de rester dans le texte.
Mmh.
Donc il faudra trouver une pensée principale
qui
servira de base pour développer la
prédication.
Et hier, j'avais déjà mentionné qu'un point important, c'est de faire apparaître le plan du salut de Dieu.
Et
par exemple, dans cette parabole de l'homme riche et de Lazare, c'est pas simplement une histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre. Mais il faut se rendre compte qu'une fois, c'est trop tard. C'est quand on est sur la terre vivant qu'on fait nos choix. Après, c'est trop tard. L'homme riche aimerait bien qu'on avertisse ses frères qui vivent encore. Lazare leur dit, mais tes frères vivent encore sur la terre. Ils ont qu'à écouter les prédications, ils ont qu'à écouter les messages,
l'évangile.
Alors voilà, c'est une manière d'introduire aussi le plan du salut dans chaque prédication.
Ne pas
s'arrêter à une histoire intéressante, un peu curieuse. Mais le sujet doit continuer avec ce plan de salut. On parle beaucoup de la condition humaine.
Et
quand on parle de la condition humaine, qu'est-ce qu'on prend comme... quel est le qualificatif utilisé le plus fréquemment dans nos milieux? Qu'est-ce qu'on dit? L'être humain, il est...
Oui. Oui.
Un mot qu'on dit toujours.
Je ne sais pas compris.
Il est pêcheur.
Ah, comment vous avez dit que vous avez dit?
Mais c'est vrai que si on utilise ce mot trop fréquemment,
non,
on n'écoute plus. Ça
ne
veut pas dire qu'il faut l'éviter.
Il
vaut mieux peut-être parler des effets du péché. L'homme naturel
est
séparé de Dieu. Dieu veut cette relation. Mais c'est à moi de chercher cette relation. Dieu me l'offre. Et de faire ressentir cette séparation avec Dieu. On peut le faire sans toujours parler du péché, par exemple. Et puis si on parle de l'être humain aussi, si on parle des gens, des hommes, c'est important de le faire respectueusement. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu.
C'est
toujours se souvenir que la Bible est porteuse de
salut.
Et pas en faire un livre moralisateur. Donc genre, si tu veux être un bon chrétien, tu ne dois pas faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça.
Vous imaginez, vous voyez, vous ne pouvez pas bouger, quoi, j'ai.
On a vu dans l'épître aux Galates.
Donc, on a un mukanda, on pose le pôle, on se met dans la pire.
Le chrétien doit revêtir Christ.
Et
qu'est-ce que ça veut dire? Que lui-même sera un exemple, un témoignage de la vie que Christ nous donne. Chaque chrétien est attiré différemment à Christ.
Chacun
a une sensibilité différente. Et c'est pour ça qu'il faut laisser parler le texte. Et pas
de
dire, je vais lui dire le point 1, le point 2, le point 3, puis à la fin, il va se convertir. Mais il faut donner confiance en la puissance de Dieu.
Quand vous vous filez,
un point important, c'est comment le transmettre après, comment l'appliquer à la vie de tous les jours. Déceler tous les éléments qu'on peut appliquer à notre vie chrétienne. Parce que le but, c'est qu'à la fin de la prédication, les auditeurs prennent une décision ou fassent un petit pas de foi. Quand on veut appliquer la parole dans la vie quotidienne, faut pas négliger les émotions, ça nous touche au cœur. Quand il y a des fêtes,
ben
le chrétien se peut se réjouir avec.
Quand
il y a des situations difficiles, le chrétien peut pleurer. Chez nous, maintenant ça se fait moins, mais autrefois on disait, tiens petit garçon, tu ne dois pas pleurer.
Parce que
t'es un homme, tu ne dois pas pleurer.
Ici
aussi, on dit des choses comme ça. Non. Alors, en grandissant, si un homme pleurait, il avait honte. Parce qu'on lui avait dit tout petit, si t'es un garçon, tu ne dois pas pleurer. Le chagrin peut être très légitime. Et par exemple, l'apôtre Paul, je tire une phrase de l'épître aux Romains,
chapitre 9,
verset
2,
j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Donc l'apôtre Paul a connu la tristesse. Et puis vous pouvez souvenir du Seigneur Jésus. Quand son ami Lazare était mort. Il y a le verset, je pense, le plus court de la Bible.
En tout cas
en français. Jésus pleura.
Bon, mon frère, ça me dit, ben, Yesu kwa ka jila lu bo bo mo ti lu ba mule ven sa mo ti lu bo ju mule o ju shila na mi kwa o
men jiji a konite
we yesu wa ka shiku ka ju ku ju mu nga mo ti lu bo mu yi kwa o bo mo ti lu bo ku ju ju mu yi kwa o yesu wa ka shiku ka
et puis dans le jardin de Gethsemane
parce que tout en là ou le pango lo Gethsemane Gethsemane
on voit que Jésus a été pris d'anxiété, il a eu des grandes émotions.
Yesu wa ka jumuleni boku mu chimuwembe wa ka chi ni kanyinga nyinga ngelanga na jameji.
Alors les émotions il faut aussi faire attention, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises.
Eh kajinu amanyeni ngene lo ameji uji ni lota tuboru boku jimimbe ni miti.
Mais la joie peut être très mal inspirée.
Kajafa mu jisanka jijuma ka njanga ta bibi mu moyo.
De nouveau, un rappel de ce qui s'est passé à la Pâque.
Kapa, tu dis mon coup de luka, bo chaka pita, mo pasaka.
C'est comme Jésus a été livré.
Chikondo mene chaka iboku fila Yesu.
Il est dit que les pharisiens et les scribes s'étaient mis d'accord pour livrer Jésus, pour essayer de prendre Jésus.
Bo abafale se ne bafunji, bakajima yopanda yopanda ko bashe bidibike ngani Yesu afijibwe.
Et c'est là où Judas a pris contact avec eux et dit, j'ai comme de l'argent, je vais vous livrer.
Et
la Bible nous dit que ces pharisiens ont éprouvé une grande joie.
On
voit que c'est une joie malsaine. C'est une joie pour faire du mal. Alors Dieu s'exprime aussi dans la Bible souvent avec beaucoup d'émotions.
Zambi, il y a bien de beaucoup de mukanda wa Zambi nanga nanga pa mwafa limadu ajato kumoyo.
Il utilise nos émotions des hommes pour montrer ce qui est dans son cœur.
Pa mwafu ya yepangata madu ajato totoetu kumoyo bubantu ajiye uteka kabije anyi utwambila.
On le voit en colère, on le voit jaloux. Il se réjouit. Il regrette. Ça veut dire que Dieu peut comprendre ce qui se passe en nous aussi. Alors maintenant pour appliquer la parole à ma vie, trouver des applications pratiques. Il faut encourager la motivation. Encourager ou modifier un comportement. Je prends un exemple pratique. Où l'apôtre Paul cherche à motiver les auditeurs. Dans le cas particulier, c'est dans une lettre qu'il écrit qui sera lue à l'Assemblée. On peut lire Philippiens 4. Versets
6
et
7.
Alors on va le lire, puis dire, mais qu'est-ce que... Comment Paul, l'apôtre Paul, a motivé les Philippiens.
Versets
6 et
7.
Dans la première partie, je veux les motiver à exposer tout ce qui se passe dans leur cœur devant Dieu.
Ah,
Il y a quelque chose qui pèse sur mon cœur. Il faut que je le présente au Seigneur.
Et
comment est-ce qu'il les motive? Il leur montre que ce n'est pas inutile.
Il y a
une espérance. Et quelle est cette espérance? Quand j'ai parlé de mon problème à Dieu, est-ce que vous avez déjà ressenti cette paix? Cette paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Donc il les motive pas simplement à prier. Mais quand ils auront fait leur prière, ils en recevront quelque chose, c'est cette paix avec Dieu. Cette paix avec Dieu, c'est l'assurance de l'absence de tout conflit. Parce que c'est vrai, des fois, il y a des choses qui nous préoccupent, on est toujours tenté d'accuser Dieu. C'est comme si j'étais en conflit entre Dieu, qui est en conflit entre Dieu et moi. Mais le simple fait de parler et de l'exposer à Dieu va nous donner comme une certitude ou un apaisement intérieur. Alors c'est très différent de faire comme l'apôtre Paul nous le dit que de le faire par devoir. La motivation est très différente. Si je fais quelque chose par devoir pour avoir la paix, j'aurai jamais l'apaisement de mon cœur. Parce que si je fais par devoir, je ne sais jamais si j'ai fait assez ou pas assez ou mal ou qu'est-ce qui manque pour que Dieu réponde. Si j'ai ce sentiment d'insécurité, je ne serai jamais en paix. Et l'apôtre Paul veut nous motiver à exposer nos choses à Dieu et à faire confiance à Dieu. Donc la motivation qu'on donne est aussi très importante. Maintenant, c'est important d'expliquer aussi le texte. On peut faire remarquer certains mots, certaines liaisons. Il faudra éventuellement expliquer les coutumes locales à l'époque. Je pense à cette rencontre de Jésus dans Jean chapitre
4.
Où il rencontre cette femme samaritaine à midi au bord d'un puits. C'est probablement une scène qu'on ne va pas vivre ici. En tout cas, chez nous, pas du tout. Il n'y a pas de puits où on va tirer l'eau. Donc il faut expliquer ces coutumes locales. Pourquoi c'était à midi que cette femme était là au bord du
puits?
Alors que c'est l'heure la plus chaude, c'est le travail le plus pénible.
Il
faut comprendre le texte. pour donner des fois des explications géographiques.
Mwane tujumu kufila ujani muiishi tujumu kufila kabiti jumuisha ya kumichila kumalo abuloba.
On a vu que ça nous aide beaucoup pour mieux comprendre les lettres, par exemple, aux Éphésiens.
Ni nyuma ni jibu kumbulisha biko ni botoe tukumanya mikanda mifunda bumu tu akumu na mukanda wa Efeso ni wakwanda sai.
Si je lis les lettres sans savoir tout ce contexte.
Wewe mubale mikanda kajuku imumenye ni akanye mifunji bufanye ni bantu ababa akanye bashilane muntanta bule munye bije moko tachesh.
J'aurais peut-être plus de difficultés à comprendre le message du texte.
Ni pikale ni lutatu bo wewe kuyukuva bimpe shakaje mukanda wo mufunji la.
Et puis aussi trouver des illustrations ou des comparaisons qui permettent de mieux comprendre le texte.
Après ce wewe ke bamushindo kuyukweza kabiji malo akufanyikisha.
On peut donner un témoignage de sa vie.
Ah, pour ce, na chamu muso ande juwe mumoyu we we kaya budi moyu kufira bumbushajiki.
Par exemple, je connais des groupes qui évangélisent simplement en donnant des témoignages.
Mwana tu mumani, kujibu mubiso mubiji biyoku mala chalu mubiimpe, kajilu mubiimpe baya bobo kuli mala chwekini paku fira kwa majajiki.
On invite certaines personnes qui se retrouvent, disons, le samedi matin, on
travaille.
Et puis une personne dit, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Et ça commence. Et commence une discussion. Et comme ça, on ne va pas évangéliser en disant. La Bible dit que. Mais si je donne mon témoignage, les personnes vont être plus touchées. Ce point pas très important, mais on peut faire aussi un peu d'humour. On peut donner un proverbe.
Des choses
qui détendent. Et puis, il faut aussi donner des pistes pour des applications. Là, je vais prendre un exemple dans l'épître aux Éphésiens. Simplement montrer un exemple pratique. Alors, l'apôtre Paul recommande une certaine, ou utilise une certaine stratégie. Pour que les Éphésiens abandonnent certaines mauvaises habitudes. C'est dans Éphésiens chapitre 4. Les versets 22 à 32. On ne va pas tous les
lire.
Les premiers versets, ils enseignent en disant qu'on doit revêtir Christ. Revêtir un homme nouveau pour pouvoir défendre la vérité. Il dit, il faut abandonner votre vieille nature et se revêtir de l'homme nouveau. Et voilà, il aurait pu s'arrêter là. Les auditeurs seraient repartis. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? Alors l'apôtre Paul donne des pistes d'application pratique. Et l'apôtre Paul ne va pas culpabiliser les auditeurs.
Il ne
va pas prendre différents changements, c'est mal, il ne faut pas faire ça. Il dit simplement, débarrassez-vous du mensonge et dites la vérité. Attention quand vous vous mettez en colère. Essayez de résoudre le problème avant la tombée de la nuit. Il dit aussi que celui qui volait cesse de voler. Et qu'il se donne plutôt la peine de travailler. On voit l'apôtre Paul ne juge pas un aspect. Si quelque chose n'est pas en ordre, il propose une autre solution. Alors là, ne pas voler, plutôt travailler, et il ajoute pour pouvoir même donner. On se dit que par la parole, à te faire beaucoup de mal. Il va ajouter qu'aucune parole malsaine sorte de votre bouche. Mais seulement de bonnes paroles qui servent à l'édification, qui transmettent la grâce à ceux qui les entendent. Alors on voit que l'apôtre Paul pose une motivation. Mais il fait des applications pratiques.
Et
ça fait partie intégrante du message. Un autre point, c'est adapter son message à l'auditoire. En autre mot, ça veut dire que le message doit être pertinent.
Et
la prédication doit, c'est comme un pont reliant deux choses.
Il
y a l'univers du monde biblique,
le contexte du monde.
Et puis le monde actuel dans lequel on vit. Parce que l'application pratique doit provoquer un changement dans ma vie aujourd'hui. Donc un message pertinent, c'est celui qui correspond aux besoins de l'auditoire. Et l'apôtre Paul s'est toujours adapté à son auditoire. Il dit, je me suis fait tout à tous. Par exemple, quand il a fait plusieurs voyages, lui-même avait eu l'éducation juive. Il a voyagé, il s'est trouvé en Grèce.
Il
s'est trouvé à
Athènes.
Et là, il a voulu évangéliser de la même manière que les Grecs raisonnaient. Et les Grecs ont été très intéressés par ces discussions. Jusqu'au moment où il a parlé de la résurrection. Alors là, tout le monde a rigolé. Mais on voit qu'il s'était adapté à son auditoire. Et au début, il évangélisait toujours en commençant par les synagogues.
Sunangoga. Oui.
Et alors certainement qu'il a pris beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament.
Et
on voit que dans ses épîtres, il connaissait très bien le plan de Dieu. Il pouvait commencer avec la création ou avec Abraham.
Et
les auditeurs qui étaient juifs comprenaient ce qu'ils disaient. Donc c'est des points à respecter quand on présente un message.
Il faut
l'adapter. On
ne
connaît pas l'auditoire. Il y a peut-être des personnes non croyantes. Alors il faut adapter son vocabulaire.
En
croyant, vous parlez de différents thèmes, on va se comprendre.
Un
non-croyant va peut-être rien y comprendre.
C'est
toujours important de rappeler un peu ce qu'est la Bible. Parce que dans le monde actuel, en tout cas dans nos pays, les gens ont perdu la notion de ce qu'est la Bible, le contenu de la Bible, on
ne
le connaît
pas.
On peut parler de différents personnages, comme Moïse, Luc, Pierre, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible,
ne
saura pas peut-être le roi David vient après Abraham. C'est étonnant des fois la conception de ce que les gens croient savoir.
C'est
aussi important de prier. Parce que finalement c'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre les cœurs. Et c'est vrai qu'il y a aussi un point, tiens, c'est pas en voyant les auditeurs qu'on va voir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux.
Et
les comportements extérieurs ne reflètent pas forcément ce qu'il y a dans leur cœur. Alors, il faut faire attention dans ce message de penser à tout cela.
C'est là
aussi qu'il faut être dirigé par l'esprit, se laisser inspirer. Pour peut-être prononcer une fois une parole qui se sera une personne.
Et
puis, il y a aussi toute la question de la contextualisation. La contextualisation, c'est l'art de transmettre le message de la Bible pour transmettre le message de la Bible dans un contexte socio-culturel particulier. On en a parlé ce matin. Frère Pierre a mentionné qu'avec la
scène,
dans nos pays en Europe, on n'a pas de problème. Parce que notre nourriture quotidienne, c'est le pain, le blé. On produit du vin. Et ces choses ont une signification. On arrive ici. Le blé se partit tous dans mon sang. Par contre, le maïs, vous comprenez mieux ce que c'est. Je pensais à un exemple parce que c'est dans Jean 12, je crois. Jésus prend l'exemple de ce grain de blé qui tombe en terre. Puis dit, si le grain de blé meurt, il reste seul, il n'y a pas de fruit. Mais si le grain de blé meurt, ça veut dire qu'il va donner naissance à une nouvelle tige. Qui porte beaucoup de fruit. Et Jésus voulait annoncer à l'avance que lui, il devait mourir. Il devait mourir pour pouvoir donner naissance à l'Église. Et la Bible a pris l'exemple du grain de blé. Et beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, parlent du blé et de la farine. Parce que ce qui se cultive dans la région. Maintenant, la contextualisation, c'est ce que le frère Michel a fait ce matin.
Jean 15.
Au lieu de prendre le symbole du
du set,
de la vigne avec
les fruits.
Le mangier, avec toutes ses feuilles. En utilisant cette image de contextualisation, on fait comprendre le message que Jésus voulait transmettre. On peut voir une graine qui donne naissance à un arbre. Ou bien vous pouvez prendre l'exemple du maïs. Parce que le maïs, quand il pousse, il donne un épi de maïs. Il y a beaucoup de grains.
Et
tous ces grains représentent du fruit en abondance. Dans d'autres pays, par exemple le blé, donne aussi des grains.
C'est
des épis plus petits. Mais qui sont là pour donner des grains, de la farine. Dans d'autres pays, ils connaissent que le riz. Alors peut-être pour contextualiser cette image, on va prendre il faut s'adapter à la région, à la société, pour que les auditeurs comprennent vraiment le sens du texte. Bon, il faut dire que pour la prédication, il faut aussi avoir un certain sens pédagogique. Plusieurs d'entre vous enseignent dans des écoles. Mais avant d'enseigner, il faut avoir étudié. Et toute une partie de l'éducation La formation, c'est aussi la pédagogie.
Kuti chitobachenere chakuyila chiti chibamba ni mushindo wokuyish, anyi mushindo wokulongesha.
Savoir comment parler pour faire passer un message.
Umanyi mushindo ka yundi mokokula bwani bijuyisha bifike mu miti ya bayi.
C'est un don, mais un don.
Kuti chikale chipeji.
Mais ça peut aussi s'apprendre en partie.
Kuti chidimu kuyishi anchidimu kulonyibwa muchitupa.
Si je prépare une prédication,
c'est
bien de me préparer un peu à l'avance.
Et quand
j'étudie mon texte,
j'ai des
idées, des pensées qui me
viennent. Et
je peux les noter.
Si je prépare une prédication,
et puis après, il faudra mettre ensemble un peu toutes ces pensées.
Qu'est-ce qui est
le plus important?
Quelle
est la phrase clé pour le message?
Et
le but, c'est aussi que les auditeurs se souviennent de la
prédication.
Et s'il y a un fil conducteur et un mot-clé,
oui, quand
l'auditeur se souviendra plus facilement de ce qu'il a entendu.
Et
donc, c'est bien des fois d'établir un plan. Pour pas se disperser dans beaucoup de choses. Et puis comme on a fait l'exercice tout à l'heure, c'est bien de diviser son texte en différents sous-chapitres. Il faut penser aussi à une introduction. Comment est-ce que je vais introduire ma prédication? Et on dit que les premiers mots qu'on va dire vont déjà influencer après quelques mots, peut-être certains vont dire ah non. Il faut attirer l'attention dès le début. Et puis il faut penser une conclusion aussi. Vous avez vu dans les exposés ici la plupart du temps il y a une conclusion. Une conclusion qui peut-être résume les points importants, qui rappelle de nouveau le thème de la prédication. Pour que les éditeurs qui retrouvent leur train-train quotidien
puissent
repasser dans leur tête des choses qu'ils ont
entendues.
C'est la prédication elle-même. La communication du
message.
Alors c'est des choses que vous avez déjà entendues peut-être. Mais avant de se lancer dans une prédication, se consacrer un moment à la prière. Se souvenir que la prédication est un ministère du Saint-Esprit. Les auditeurs entendront le texte biblique.
Nous
entendrons mes paroles. Le Saint-Esprit qui va convaincre. Il faut en essayer de convaincre avec des paroles. On veut être logique.
On veut être
logique. Par contre, la logique de Dieu, la logique de Dieu qui n'est pas une logique humaine. On comprend pas tout. Et il faut l'accepter. Mais la logique de Dieu, on la comprend par le cœur. Il faut toujours avoir ça présent à l'esprit devant un auditoire.
Et
pendant la prédication, il faut être présent.
Mais
qu'est-ce que ça veut dire? Je suis présent maintenant. Et si je suis comme ça avec ma prédication, est-ce que je suis présent?
Non.
Il faut être présent devant l'auditoire. Donc on peut dire, il y a des prédicateurs qui parlent. Et il y a des prédicateurs qui vous parlent. Qui parle, c'est des paroles. Mais qui vous parle, c'est qui parle à l'auditoire. Et puis après la prédication, des fois, on aimerait bien mesurer l'impact, est-ce que c'était bien reçu ou pas. Mais je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Personnellement, des fois, après avoir parlé, je me sens fatigué, puis des fois presque découragé. Mais il faut faire confiance à Dieu. Parce que ces choses qu'on ressent, c'est nos émotions.
Elles
ne prennent pas en compte de tout ce qui s'est passé. Alors je vous laisse avec un verset. Parce que c'est le dernier exposé. Vous allez rentrer chez vous. Dans vos différentes assemblées. Vous avez eu l'occasion de venir ici. De découvrir peut-être des nouvelles choses dans la Bible. Vous avez eu des discussions les uns avec les autres. Alors je pense que vous avez été enrichi de bien des manières. Et maintenant c'est votre responsabilité de partager avec d'autres ce que vous avez reçu. Alors le dernier verset que je vais citer, c'est un verset de Colossiens 4, verset 17. Qui dit veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Voilà.
Merci.